Aujourd'hui, j'aimerais faire un parallèle entre l'orgueil et le levain. Nous allons examiner les effets du levain dans nos vies, les effets de l'orgueil en particulier dans nos vies et comment l'éliminer. Comme le levain, l'orgueil est quelque chose qui gonfle, qui enfle. L'orgueil, c'est une opinion trop élevée que nous avons de nous-mêmes. Nous nous voyons plus que ce que nous sommes en réalité. Nous nous élevons au-dessus de ce qu'est la réalité en ce qui nous concerne. Allons au livre de Proverbes, s'il vous plaît. Proverbes, chapitre 6. L'orgueil, comme nous le verrons, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas, qu'il déteste. Proverbes 6, verset 16, il est écrit « Il y a six choses que hait l'Éternel, et même sept qu'il a en horreur. Les yeux hautains, ou les yeux orgueilleux, si vous voulez, la langue mensongère, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. » L'orgueil, ici, est décrite comme quelque chose que Dieu déteste, contrairement à ce que la société considère en ce qui a trait à l'orgueil. Autour de nous, on prétend que l'orgueil est quelque chose de bon, qu'on doit être empli d'orgueil, que c'est un élément motivateur. Mais lorsque nous voyons la description que Dieu en fait, c'est quelque chose de mauvais et c'est décrit parmi des choses extrêmement mauvaises. Et Dieu dit que c'est une abomination à ses yeux. Alors, l'orgueil est mentionné ici tout de suite à côté des mains qui répandent le sang, donc du meurtre. Voici donc une liste de choses que Dieu considère comme abominables. Et ça nous révèle à quel point Dieu déteste l'orgueil, à quel point il s'agit là d'une question importante. Allons au livre de Jacques, s'il vous plaît, le chapitre 4. Jacques, le chapitre 4. Il est question ici de quelque chose de très important en ce qui concerne l'orgueil chez les êtres humains. Alors, Jacques, donc, le chapitre 4, et nous allons lire la dernière partie du verset 6, qui nous révèle quelque chose de majeur. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, il nous est dit clairement que Dieu résiste à ceux qui sont orgueilleux. Et frères et sœurs, nous étudions la Bible. Nous nous efforçons d'obéir à Dieu, de sorte que lorsque nous le prions, nous voulons qu'il nous entende. Mais il est écrit ici que Dieu résiste à ceux qui ont de l'orgueil dans le cœur. Si vous voulez écrire un livre sur la façon avec laquelle vous pouvez vous assurer que Dieu n'écoute pas vos prières, ce serait de développer l'orgueil. Bien sûr, aucun de nous ne souhaitons que Dieu résiste à nos prières. Nous dépendons de Dieu pour toutes choses et nous voulons qu'il nous entende et qu'il nous réponde. C'est pourquoi il nous faut éliminer l'orgueil. Et c'est une condition selon laquelle nous pouvons être répondus par Dieu. Éliminer l'orgueil de nos vies. Parce que nous avons besoin que Dieu nous guide nos pas, soit miséricordieux envers nous. C'est pourquoi nous devons nous assurer que l'orgueil ne fait pas obstacle à nos prières. Allons à Proverbes chapitre 16 maintenant. Proverbes chapitre 16. Il nous faut vraiment nous assurer que l'orgueil n'interfère pas entre nous et Dieu et l'empêche de nous écouter comme on vient de voir. Alors donc, Proverbes, le chapitre 16, et nous allons lire le verset 18, qui indique encore un principe très important. L'arrogance ou l'orgueil précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Voyez-vous, l'orgueil donne lieu à la ruine, à la destruction. Lorsque vous voyez de la destruction quelque part, si vous retournez en arrière dans ce qui a causé ça, vous voyez que l'orgueil est impliqué. Le monde autour de nous pense qu'on doit être rempli d'orgueil, que c'est une motivation pour accomplir de grandes choses. C'est la façon humaine et selon le monde de voir les choses. Mais on voit ici que c'est le contraire, que l'orgueil, c'est quelque chose qui précède et qui mène à la ruine, à la destruction. Vous avez déjà entendu l'expression « être aveuglé par l'orgueil ». Voyez-vous, l'orgueil nous empêche, en fait, de voir les situations clairement. L'orgueil a un effet d'intoxication. Et lorsqu'une personne est intoxiquée par l'orgueil, elle ne pense pas clairement. Elle ne voit pas la réalité comme telle. Et ses décisions ne sont pas justes. Et elle a de la difficulté à distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal. Son cerveau est, pour ainsi dire, comme endormi par l'orgueil. L'orgueil intoxique la personne qui en est affecté. Et ça nous empêche de voir clairement. Et ça nous empêche de vraiment distinguer entre ce que nous devrions faire et ce que nous ne devrions pas faire. Allons maintenant à Psaume, chapitre 11, juste un peu auparavant. Quelques pages auparavant, donc, Proverbes, chapitre 11. Et nous allons lire à partir du verset 2, Proverbes chapitre 11 et le verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie ou la honte dans certaines versions. C'est intéressant la description qui est faite ici. Ça indique que lorsque l'orgueil entre en scène, la honte arrive. Avant qu'il y ait de l'orgueil, il n'y avait pas de honte. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi est-ce que ça arrive? Nous avons vu auparavant que l'orgueil précède la ruine ou la destruction. Et lorsqu'il y a de la destruction, il y a de la honte. Après qu'il y a eu ruine et destruction, il y a honte. Et on peut apprendre beaucoup de ceci. On peut apprendre de deux façons. On apprend soit en étant instruit, en se faisant enseigner, ou par expérience. Nous étudions la parole de Dieu et nous y voyons très clairement que l'orgueil est quelque chose d'extrêmement dangereux. Nous voyons autour dans la société que c'est répandu et que les gens considèrent ça comme normal. Mais Dieu déteste l'orgueil parce que ça a un effet de destruction sur la vie des gens. Lorsque l'orgueil arrive, lorsque vient l'orgueil, vient la destruction et vient aussi la honte, comme on voit ici. C'est ce qui arrive lorsqu'on permet à l'orgueil de se développer. Si on reconnaît tout de suite l'orgueil à ce que c'est et qu'on le mette de côté, on évite la destruction, on évite la ruine, on évite des problèmes majeurs. Allons à Proverbe 13 et nous allons voir un autre élément en ce qui concerne l'orgueil. Proverbe, chapitre 13, nous allons voir un autre effet de l'orgueil. Proverbe 13 et le verset 10, il est écrit « C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. » C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Autrement dit, les querelles sont issues de l'orgueil. L'orgueil produit des querelles, engendre des querelles. Lorsque vous voyez des conflits, lorsque vous voyez des querelles, lorsque vous voyez des divisions, automatiquement, l'orgueil est impliqué et joue un rôle dans cette situation-là. C'est quelque chose au sujet duquel nous devons réfléchir. Et nous voyons par ça pourquoi Dieu déteste l'orgueil. On a besoin de reconnaître l'orgueil pour ce que c'est et de l'enlever de nos vies, de le vaincre et de l'enlever de nos vies avec l'aide de Dieu. Et tout comme on fait le ménage d'enlever le levain dans nos maisons lorsque vient la fête des pains sans levain, il faut, dans notre vie, enlever tout ce qu'il y a d'orgueil. Sinon, on a de la difficulté à se voir clairement soi-même. Nous nous rappelons ce que Jérémie 17, 9 dit, « Le cœur humain est tortueux par-dessus tout. » Il nous faut reconnaître que l'orgueil est quelque chose à éviter, à éliminer. Et si on le laisse persister en nous, nous aurons un prix énorme à payer comme conséquence. Et c'est difficile de voir l'orgueil en nous. Il faut prendre le temps de bien l'identifier, de demander à Dieu même de nous montrer. Lorsqu'il y a des frictions avec d'autres personnes, lorsqu'il y a des conflits, des querelles, nous voyons par la Bible que l'orgueil est en jeu, que l'orgueil joue un rôle. Et ça nous donne l'occasion de réaliser qu'il y a là un signe d'avertissement, qu'il y a de l'orgueil d'impliqué. Si nous avons un conflit avec quelqu'un ou si nous avons des querelles avec quelqu'un, si nous faisons partie de certaines divisions, sachons qu'il y a de l'orgueil d'impliqué. Examinons-nous. Il y a plusieurs exemples d'orgueil dans la Bible. Allons à 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 9, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 9. Nous allons voir quelques exemples bibliques très clairs concernant l'orgueil et ses méfaits. Alors, 1 Samuel, le chapitre 9, s'il vous plaît, et nous allons commencer à lire avec le verset 15. 1 Samuel 9 et le verset 15. C'est l'exemple de Saül, le premier roi d'Israël. Donc, le verset 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Vous vous rappelez que le peuple d'Israël avait rejeté Samuel et ses fils parce que les fils de Samuel ne marchaient pas dans les traces de leur père. Alors les gens les ont rejetés et ont demandé d'avoir un roi pour régner sur eux, comme les autres nations. Alors ici, Dieu répondait à leur demande. Alors Dieu a dit à Samuel ici de s'attendre à rencontrer quelqu'un le lendemain qui devrait être oint comme roi, verset 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. » Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours. » Saül était allé dans cette direction-là parce qu'il était à la recherche des ânesses perdues de son père, car ces ânesses sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi, Saül, et pour toute la maison de ton père? Remarquez bien le verset suivant qui décrit la réaction de Saül, son attitude. Saül répondit, « Ne suis-je pas Benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? » La réaction de Saül n'a pas été de dire, « Ah, je suis content que tu aies remarqué que je suis quelqu'un d'important. » Non, la réponse de Saül, ça a été, « Qui suis-je pour que tu me parles ainsi? Ma famille n'est rien et je suis rien. Je fais partie d'une toute petite tribu. Et tu m'as invité de manger dans ces lieux élevés et tu me dis de telles choses. » Verset 22, « Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. » Il y avait 30 hommes qui avaient été invités à manger ensemble lors de cette occasion par le prophète. Et Samuel avait spécifié, comme on le voit dans le contexte, de donner la portion de viande la meilleure à Saül. Alors, cette portion-là avait été réservée pour Saül. Et le lendemain, nous voyons ce qui s'est passé. Le lendemain, 1 Samuel 10 et le verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? » Et ensuite, il explique à Saül ce à quoi il doit s'attendre et quelles sont ses responsabilités et qu'est-ce qui s'en vient à ce qu'il concerne. Alors, nous voyons ici un jeune homme qui se voit attribuer un grand honneur et à ce moment-là de sa vie, Saül avait une attitude de complète humilité. Par contre, lorsque nous allons un peu plus loin, au chapitre 15 de 1 Samuel, nous voyons que les choses ont changé. 1 Samuel, chapitre 15. Allons commencer à lire au verset 1. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur mon peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. » Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Alors, Saül avait une directive précise de la part du prophète. Verset 4, « Saül convoqua le peuple et il en fit la revue. Il avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. » Au verset 7, « Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. » Et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. » C'est intéressant de voir qu'ils ont gardé tout ce qui semblait bon. Qui définit ce qui est bon? Dieu avait ordonné que tout cela soit détruit. Mais on voit que Saül et les gens n'ont pas suivi la directive de Dieu. Pourtant, les directives de Dieu étaient très claires, très précises, mais ils ne les ont pas observées, pas suivies, ils ne les ont pas appliquées. Au verset 11, nous voyons que Dieu a dit à Samuel qu'il était irrité en ce qui concerne Saül et qu'il voulait le rejeter comme roi sur Israël. Il se leva, verset 12, de bon matin pour aller au-devant de Saül, c'est Samuel, et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il y a érigé un monument. Verset 13, Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » C'est intéressant, parce qu'on vient de lire qu'il n'avait pas accompli ce que Dieu lui avait demandé. On vient tout juste de le lire, quelques versets auparavant. Verset 14, Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? » Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Il n'avait pas suivi les directives divines. Néanmoins, il dit à Samuel qu'il avait suivi les directives de Dieu. Et lorsque le prophète lui dit qu'il ne l'a pas fait, il insiste pour dire qu'il a obéi, qu'il a fait la volonté de Dieu. Le cœur humain est tortueux. Verset 16. Samuel dit à Saül, « Arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Verset 17. Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, Saül, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? » Dieu indique ici par Samuel cette distinction entre l'attitude que Saül venait d'avoir et l'attitude qu'il avait au moment où il a été oint roi sur Israël. Autrement dit, avant que tu sois rempli d'orgueil, tu étais humble. Nous avons vu tout à l'heure que l'orgueil précède la ruine, la destruction, et après la ruine vient la honte. Et nous voyons se dérouler ces événements successifs ici dans la vie de Saül. Au point de départ, Saül n'était pas rempli d'orgueil, mais il s'est laissé envahir par l'orgueil. Il a fait certaines erreurs et il s'est laissé être empli d'orgueil, pour ainsi dire. Comme par du levain. Ça prend un tout petit peu de levain qui se répand dans la pâte pour gonfler toute la pâte. C'est clair, l'exemple est fort. C'est un exemple puissant pour nous. Lorsqu'il était humble, Dieu l'a choisi. Et il a travaillé avec lui pour accomplir quelque chose, pour accomplir une œuvre, pour faire une œuvre, pour accomplir un but que Dieu avait à l'esprit. Toutefois, lorsque Saül s'est laissé emplir d'orgueil, il est devenu inadéquat pour le poste qui lui avait été confié. Et à ce moment-là, Dieu lui a enlevé le royaume parce qu'il avait permis à l'orgueil de l'envahir, de l'habiter. C'est frappant de voir que le prophète a dit à Saül ici, « Tu n'as pas fait ce que Dieu t'a dit. Et la prochaine phrase qui sort de la bouche de Saül à ce moment-là, c'est de dire, non, j'ai obéi à Dieu. Voici ce qui s'est passé, j'ai obéi à Dieu. Il était intoxiqué par l'orgueil, incapable de voir clairement. Il ne pouvait plus se voir selon ce qu'il était vraiment. L'orgueil aveugle et nous empêche de voir la réalité comme telle. Il ne voyait plus ce qu'il avait fait. Il ne voyait plus logiquement ou de façon réaliste. Voyons maintenant un autre passage dans 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5, s'il vous plaît. Deux Rois, le chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 1. Un autre exemple d'orgueil et des effets de l'orgueil sur un être humain. Deux Rois, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et il expliqua à son chef, à son roi, ce qui en était, verset 5, « Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Donc, il apporta beaucoup de cadeaux. Et il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, et ainsi de suite. Verset 7, « Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. » On voit ce qui était écrit dans la lettre. Ça disait, « Afin que tu, en parlant au roi d'Israël, afin que tu le guérisses de sa lèpre, verset 6, verset 7, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Remarquez que la petite fille qui avait été amenée captive d'Israël, elle était proche de Dieu, elle avait rapport avec son Dieu, et le roi sur Israël qui était resté avait oublié Dieu, lui. Et voyez sa réaction, il reçoit Naaman, et il est découragé, il est fâché, il est confus de ce qui se passe, et il dit « ça ressemble à un piège qu'on veut me tendre ». Alors, on voit que cet homme-là n'était pas proche de Dieu du tout. Élisée lui envoya un messager au roi d'Israël et il fit dire au roi d'envoyer Naaman vers lui, vers le prophète. Verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée, le prophète. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Le verset suivant, « Naaman fut furieux, irrité. » Cet homme-là avait fait tout ce chemin. Il avait emmené toutes ces richesses-là avec lui en cadeau pour être guéri. Et il avait beaucoup d'enthousiasme à l'idée d'être libéré de sa lèpre. Il va devant le roi d'Israël et le roi lui dit, « Non, viens pas me voir, va voir le prophète à telle place. Il se rend là. Et le prophète Élisée ne sort même pas le rencontrer. Il envoie son serviteur. Élisée lui envoie un serviteur qui lui dit quoi? Il lui dit, « Va te laver un peu plus loin ici dans la rivière. » Il devient furieux. Naaman fut irrité. Verset 11. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais en moi-même, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Dans son esprit, il s'était fait tout un scénario de comment les choses allaient se passer. Il se considérait comme un être important, impressionnant, un homme de grande puissance, avec une grande autorité. Et dans son esprit, il allait être guéri miraculeusement et il avait imaginé la façon dont ça allait se passer. Selon lui, il aurait dû y avoir un grand spectacle, lui se présentant là et puis le prophète sortant à sa rencontre et ainsi de suite. Et tout ce qu'il a eu comme réponse du serviteur du prophète, c'est « Va te laver dans le ruisseau pas loin. » C'était tout à fait le contraire de ce qu'il avait imaginé. Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Alors, voici maintenant qu'il est aveuglé par l'orgueil et par la colère, totalement aveuglé, en furie. Vous pensez que je vais aller me plonger dans cette rivière boueuse? Il y a des rivières chez nous qui sont beaucoup plus belles que celle-là, beaucoup plus propres. Mais voici au verset 13, ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Voyez-vous, ses serviteurs l'ont aidé à avoir une autre perspective sur la situation. Ils lui ont rappelé que Naaman avait fait tout ce chemin-là avec dans l'idée au point de départ de faire quoi que ce soit qui lui serait demandé. Et ils lui ont rappelé son intention. Dans le fond, ils lui ont dit, « Est-ce que tu ne te réjouis pas qu'il te demande quelque chose de très simple? Il ne t'a pas demandé quelque chose d'impossible. » Verset 14, « Donc, à ce moment-là, Naaman descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. » Ici, nous voyons une situation où il a manqué de peu l'occasion d'être guéri à cause de son orgueil. Parce que par son orgueil, il s'attendait à ce que les choses devaient se passer d'une certaine façon. Et ce qu'il a vu, c'est que la façon avec laquelle il a été traité ne correspondait pas avec ce qu'il s'était imaginé. Et il était convaincu que ça ne convenait pas à un homme de son statut, à un homme de son autorité, à un homme de son importance. Et comme résultat, il se détournait, il se préparait à partir. Et il est venu tout près de laisser passer cette occasion unique d'être guéri, de rater sa chance. Heureusement, il a prêté oreille au conseil sage de ses serviteurs qui l'ont aidé à voir les choses comme il faut, de bonne façon. Et c'est intéressant. Après avoir été guéri, Naaman a voulu donner beaucoup de présents à Élisée. Et Élisée a dit, « Non, je ne prendrai rien. La gloire appartient à Dieu. C'est Dieu qui t'a guéri. » Et c'est intéressant, vous pouvez lire le contexte. Naaman a demandé d'avoir 2 ânesses avec une charge de terre en provenance du sol d'Israël pour ramener chez lui, pour offrir à l'Éternel. Et il a demandé que Dieu ne considère pas le fait qu'il devait, à son retour, aller se prosterner dans le temple des faux dieux de son maître. Intéressant. On voit le rôle que l'orgueil a joué dans sa vie et à quel point ça l'a presque coûté son occasion unique. Ça lui a presque coûté son occasion unique d'être guéri. Écoutez, c'était une maladie grave qu'il avait et il ne voulait pas que rien ne l'empêche d'être guéri. Mais pourtant, son orgueil a failli provoquer le fait qu'il ne soit pas guéri. On voit à quel point l'orgueil joue un rôle majeur. Voyons un autre grand exemple d'orgueil dans Daniel, le chapitre 2. Daniel, le chapitre 2, on va lire à partir du verset 36. Daniel 2, donc. On sait que c'est le cas de Nabuchodonosor, qui lui aussi a été un personnage enflé d'orgueil et qui en a payé le prix parce qu'il y a eu une ruine, il y a eu de la destruction qui s'en est suivie. Et on voit dans Daniel 1 comment Dieu a permis que le roi de Juda et le peuple soient emmenés captifs sur le territoire de Nabuchodonosor et Daniel se trouvait parmi ces captifs à ce moment-là. Nous voyons la description au chapitre 2 du rêve que l'empereur Nabuchodonosor a fait, un rêve qui l'a laissé perplexe et pour lequel il cherchait explication. Et personne n'a été capable d'interpréter ce rêve sauf Daniel. Daniel a expliqué ce rêve au roi en lui disant qu'il y a un Dieu dans les cieux qui lui révèle les secrets des hommes et qui fait connaître ces choses. Alors, Daniel a décrit clairement l'image que Nabuchodonosor avait vue en rêve et lui en a donné la signification de cette grande image impressionnante. Donc, il lui en a donné la signification. Daniel 2 et le verset 36. Voici le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Et après, il décrit les royaumes successifs qui devaient arriver par la suite. Le roi Nabuchodonosor et son gouvernement représentaient donc cette tête d'or, la tête d'or de la statue. Et au chapitre 3, on voit que le roi Nabuchodonosor a fait ériger une immense statue d'or et qu'il exigeait que tous se prosternent devant cette statue, le représentant. Et on voit au chapitre 4, un peu plus loin, on voit la description d'un autre rêve que Nabuchodonosor a eu, un autre songe qu'il a eu. Daniel, donc, le chapitre 4, et nous allons commencer à lire au verset 10. Daniel, chapitre 4, et le verset 10. Il est question d'un grand arbre ici qu'il a vu en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre devint grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux. On le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau, ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi, « Abattez l'arbre, coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Alors, Nabuchodonosor cherchait à avoir une explication pour ce rêve. Daniel est allé le voir et lui a expliqué cet autre rêve. Et il lui a expliqué que ce rêve le concernait personnellement, que lui-même était ce grand arbre qu'il avait vu en songe. Et Daniel décrit ce qu'il va lui arriver, verset 24 du même chapitre. « Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. » L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. » Daniel, donc, a donné l'explication. Et c'est le résultat qui allait découler de l'orgueil de Nabuchodonosor. Dieu allait l'humilier. Et Dieu, par son serviteur Daniel, a expliqué à Nabuchodonosor ce qui s'en venait comme conséquence de son orgueil. Ça a été un avertissement. Il lui a dit par là comment il pouvait possiblement éviter cette destruction ou cette ruine ou cette grande calamité qui s'en venait sur lui. Nabuchodonosor a été averti. On lit au verset 28, « Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nabuchodonosor au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone. Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone, la grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel, disant, « Apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume. » Voici, on voit Nabuchodonosor ici être enflé d'orgueil. Lorsqu'il a regardé ce qui avait été accompli, ce qu'il avait accompli, il s'en est glorifié. Totalement. Mais comme on a vu au chapitre 1, c'est Dieu qui a permis que le roi d'Israël soit amené captif avec son peuple au pays de Nabuchodonosor. Et c'est Dieu qui a donné à Nabuchodonosor d'avoir son poste. Et c'est Dieu qui a permis que tout ça soit bâti. Mais Nabuchodonosor est devenu rempli d'orgueil. Et s'est attribué toutes ces choses, malgré qu'il avait été averti de ces choses qui s'en venaient comme conséquence de son orgueil. Dans l'espace de quelques mois, 12 mois, c'est mentionné ici, après avoir été averti de ce qui s'en venait, s'il ne changeait pas, dans l'espace de 12 mois, il avait oublié totalement l'avertissement. lorsqu'il a entendu ça, au moment où Daniel lui a expliqué, il a eu peur. Et sans doute qu'il a fait certains gestes, il a posé certaines actions pour s'améliorer au point de départ, mais très rapidement, il est retourné à ses anciennes habitudes et à sa considération très élevée de lui-même. Allons au livre d'Esther, s'il vous plaît, le chapitre 3. Esther, chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 1. On voit encore ici les ravages que peut faire l'orgueil. On le voit dans le cas de Aman. Aman, un homme dont la vie devient pour nous un avertissement pour nous dire ce qui se passe lorsqu'on laisse l'orgueil s'installer et se développer en nous. Esther 3, verset 1. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Alors, on voit que cet homme, Aman, a reçu une promotion majeure à l'intérieur du royaume d'Assuérus. Et lorsqu'il se promène dans le palais du roi, tous ceux qu'il rencontre se prosternent devant lui, selon l'ordre du roi, excepté un homme, Mardochée. Lorsqu'on demandait à Mardochée de se prosterner, il ne le faisait pas. Et c'était connu parce qu'il se prosternait devant nul autre que le Dieu du ciel, que le Dieu d'Israël. Il ne se prosternait devant aucun homme. Aman aurait pu laisser passer, laisser faire tout simplement. Mais comme c'est souvent le cas en ce qui concerne l'orgueil, quelque chose de peu d'importance prend tout à coup une grande importance. Et ça colore toute la pensée et les attitudes de quelqu'un. Verset 5, « Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait pas le genou et ne se prosternait point devant lui. Et il fut quoi? Rempli de fureur. » Rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut plutôt détruire le peuple de Mardochée au complet, tous les Juifs qui se trouvaient dans le royaume d'Assuérus. Le peuple de Mardochée, donc les Juifs, ceux de sa nation. C'est frappant de voir jusqu'à quel point l'orgueil peut mener quelqu'un. Voici, un seul homme ne se prosterne pas devant Aman, et la réaction d'Aman, c'est que non seulement il veut tuer cet homme-là, Mardochée, mais qu'il veut tuer tous ceux de sa race qui se trouvent dans le pays du roi Assuérus. Il y a une disproportion incroyable ici entre sa colère et sa supposée souffrance et la réalité. Il n'y a pas de commune mesure. C'est un signe d'être rempli d'orgueil. Parce que lorsque l'orgueil nous mène, les choses qui sont en fait insignifiantes ou de peu d'importance prennent une place majeure, énorme, et engendrent des actions incroyablement graves et lourdes de conséquences. Vous connaissez l'histoire de ce Aman. Il a été rempli de colère et d'orgueil en ce qui concerne Mardochée qui refusait de se prosterner devant lui. Et comme conséquence, Aman en est mort. Il a perdu sa vie. La fosse qu'il avait creusée pour Mardochée, pour détruire Mardochée, il y est tombé, pour ainsi dire. En fait, la potence que lui-même avait faite préparer pour pendre Mardoché, c'est à cette même potence qu'il fut lui-même pendu. Allons au livre de Deutéronome, maintenant le chapitre 8, s'il vous plaît. Deutéronome, chapitre 8, et nous allons commencer à lire avec le verset 1. Alors, l'orgueil et la colère mènent à des situations, il y a des conséquences horribles et aveugles tout au long de la route, comme on vient de voir. Alors, Deutéronome, chapitre 8, donc. Deutéronome, chapitre 8. Nous avons vu la signification de l'orgueil. Nous avons vu comment Dieu voit ça. Nous avons vu les effets que ça peut produire. Nous avons vu les réactions que ça crée. Nous avons vu différents exemples dans la Bible de gens enflés d'orgueil et de ce qui arrive lorsque quelqu'un se laisse être habité et dirigé par l'orgueil. Voyons maintenant quelque chose d'important dans le même sens, Deutéronome chapitre 8, et nous allons lire à partir du verset 1. Moïse dit aux Israélites ici ces choses alors qu'ils se préparent à entrer dans la terre promise. Vous observerez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Afin quoi? Afin de t'humilier. Alors, Moïse leur rappelle leur expérience de sortie d'Égypte. Et ils sont sur le point de recevoir la terre promise, cette bénédiction incroyable qu'il leur a promise à cause de l'obéissance d'Abraham. Verset 5, voyez ce que Moïse leur dit encore. « Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras l'airain. Voilà la description du pays où ils allaient entrer. Frères et sœurs, ça décrit également la terre où nous vivons, que Dieu nous a donnée. Comme résultat de l'obéissance d'Abraham. C'était une promesse qu'il avait faite à Abraham. Ce n'est pas à cause de notre grandeur ou de notre bonté que Dieu nous a donné les bons pays où nous sommes en tant que descendants modernes d'Israël. Regardez le verset 10. « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. » au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître, tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est un avertissement clair que Moïse a donné à Israël il y a très longtemps. Et l'ancienne nation d'Israël n'y a pas pris garde. Et Israël moderne n'y prend pas garde non plus. Nous avons goûter une abondance extraordinaire dans nos pays israélites en ces temps de la faim. Moïse a écrit cet avertissement pour nous aussi. prends garde de ne pas oublier ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements et ses ordonnances et ses lois. Lorsque tu mangeras et que tu te rassasiras, attention que ton cœur ne s'enfle. Il y a une relation entre l'abondance et l'orgueil. Attention, il y a un lien puissant possible entre l'abondance et l'orgueil. Et Dieu a inspiré Moïse de décrire ce lien ici, pour notre avertissement aussi. Lorsqu'il devait avoir cette abondance en terre promise, qu'est-ce qu'il devait faire? Remercier Dieu, le servir, se rappeler de tout ce qu'il avait fait pour eux et obéir à ses commandements. Le danger, c'était qu'ils oublient Dieu. Et en oubliant Dieu, ils seraient enflés d'orgueil. Parce qu'il y a un rapport entre l'abondance et la source de l'abondance, mais ce faisant et se laissant oublier d'où ça venait, ils allaient perdre la vision d'où leur venaient toutes ces bénédictions. Et nos nations sont dans la même situation aujourd'hui. Nous avons été tellement bénis et nous n'avons pas été reconnaissants en tant que nation. Et nous voyons maintenant ces bénédictions nous être enlevées graduellement et de plus en plus rapidement. Et nous en souffrons. Nous voyons la douleur, nous voyons la souffrance se développer autour de nous, dans nos pays israélites. Pourquoi? Parce que nos gens ont oublié Dieu. Et leur cœur s'est enflé à cause de l'abondance dans laquelle ils ont vécu et qu'ils vivent encore jusqu'à un certain point. Ils ont oublié d'où cette abondance leur est venue. Allons au deuxième livre de Timothée, 2 Timothée, s'il vous plaît, le chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Et nous allons commencer à lire avec le verset 1. C'est Paul qui parle ici. Nos nations ont oublié d'où leur sont venues toutes ces bénédictions. Au début de la colonie, ici aux États-Unis, nos ancêtres savaient d'où venaient ces bénédictions et ils le reconnaissaient. Aujourd'hui, tout ça semble avoir été perdu. Au contraire, tous les efforts sont faits dans nos pays, comme aux États-Unis, pour éliminer Dieu de la vie publique. On défend maintenant de mettre des inscriptions des 10 commandements dans les lieux publics. Et on dit que ce que les gens font dans leur vie privée, c'est leur propre affaire. Ils peuvent faire n'importe quoi. Que les lois de Dieu n'ont plus d'importance. Voilà où en sont rendues nos nations. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ça caractérisait la société à l'époque de Paul, mais c'est encore davantage vrai aujourd'hui. Il le mentionne clairement ici. Sache que dans les derniers jours, ça décrit exactement la société où nous vivons en ce moment. Et on voit ici à quel point l'orgueil joue un rôle dans cette liste de choses mauvaises. Si on va à Apocalypse chapitre 3, allons plus loin, Apocalypse chapitre 3, nous voyons ici la description de ce que la société est à la fin du monde actuel, Apocalypse chapitre 3. Nous lisons concernant la dernière époque ou la dernière étape, l'ère finale de l'Église de Dieu, l'ère de Laodicée. Et ça décrit l'attitude particulière qui caractérise l'ère de Laodicée et les Laodicéens. Donc, Apocalypse 3 et le verset 14, écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Souvent, lorsque nous lisons ce passage concernant l'ère laodicéenne, nous pensons à une attitude tiède, manquant de zèle. Et certainement, c'est décrit ici. Mais je veux aller plus loin. Je veux que nous mettions l'accent sur un autre aspect, que nous voyons un autre aspect. Verset 17. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Les Laodicéens sont caractérisés comme des gens qui se perçoivent comme étant riches, comme ayant plein de choses, n'ayant besoin de rien. Et pourtant, le Christ dit qu'ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. En d'autres termes, les Laodicéens ont une perception d'eux-mêmes qui est trop élevée, trop grande. Ils sont enflés. Ils ont une image d'eux-mêmes qui n'est pas réaliste, qui ne correspond pas à ce qu'ils sont. Voilà l'attitude qui est décrite ici. Et c'est l'attitude qui est décrite comme étant là dans le corps du Christ à la toute fin. Et nous ne voulons pas nous trouver dans cette situation-là. Pourtant, c'est très bien décrit ici. Cette attitude d'orgueil qui est là tout autour de nous, dans la société, et ça nous influence, ça nous affecte, et c'est même présent dans l'Église, dans le corps du Christ, à la fin du monde actuel, à la fin de l'ère actuelle. Cette assurance de soi-même, cette confiance en soi. Allons à Proverbes chapitre 8, s'il vous plaît. Proverbes chapitre 8. Proverbes chapitre 8, et nous allons lire ici le verset 13. Proverbes chapitre 8 et le verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est d'haïr le mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais, dit l'Éternel. Craindre Dieu, c'est haïr les choses que Dieu haït. Nous savons que Dieu déteste l'orgueil. Allons à Deutéronome chapitre 17, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 17. Nous nous efforçons d'obéir à Dieu et de craindre Dieu de la bonne façon. Et ce faisant, nous en arrivons à haïr ce que Dieu haït. Il faut en venir là. Il faut en arriver à ne prendre aucun plaisir à ce qui est mal, à ne pas nous approcher de ce qui est mal, mais à détester ce qui est mal et à s'en éloigner. Deutéronome, chapitre 17, verset 18. Dieu donne certaines directives ici. En ce qui concerne les rois qui devaient régner sur Israël, les rois ne devaient pas faire certaines choses. Et d'autre part, Dieu indiquait au roi qu'il devait faire certaines choses. Le roi ne devait pas multiplier des choses pour lui-même, par exemple, ne devait pas amasser des choses pour lui-même. Il ne devait pas acquérir un grand nombre de chevaux, un grand nombre de femmes ou un grand amas de richesses. Qu'est-ce que le roi devait faire? Verset 18. Quand le roi s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Pourquoi? Afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel. Chaque jour, il devait étudier les textes pour apprendre à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Verset 20. « Afin que son cœur, quoi, ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche. » C'est intéressant de voir que l'étude biblique, le fait d'étudier quotidiennement la parole de Dieu, de l'approfondir, de s'en nourrir, c'est quelque chose que Dieu prescrit comme une antidote à l'orgueil, une façon d'éliminer l'orgueil, de nous en garder, de nous en tenir éloignés. L'orgueil est présent tout autour de nous, et il est là dans nos vies. Il faut l'identifier et s'en débarrasser. Et en ce qui concerne les rois d'Israël, à cause de leur position, ils étaient à risque aussi, beaucoup, concernant l'orgueil, d'en être imbus à un moment donné. Mais l'antidote à cela, Dieu leur donnait clairement ici, en leur disant, vous allez étudier quotidiennement les textes, le livre de la loi. Et vous allez en vivre. Allez à Jacques, maintenant, le chapitre 1, s'il vous plaît. Alors, Dieu a donné clairement au roi d'Israël ce qu'il devait faire, les directives qu'il devait mettre en application pour s'éloigner de l'orgueil, pour éliminer l'orgueil, pour vivre de façon humble. Et ça nous est adressé comme directive aussi, bien sûr. Alors, Jacques, chapitre 1, maintenant. Nous allons lire le verset 17. Pour vaincre l'orgueil, il nous faut étudier la parole de Dieu chaque jour. Ça va nous empêcher d'être enflés d'orgueil. Verset 17, donc, nous lisons un principe très important ici. Il nous faut le comprendre. Et ce faisant, ça nous aide à rester loin de l'orgueil et des chemins qui mènent à l'orgueil. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui a de la valeur, nous vient de Dieu. Il n'y a aucune raison d'être enflé d'orgueil, en rien. Et lorsque nous comprenons que tout ce que nous avons, que tout ce que nous sommes, que nous pouvons devenir, nous vient de notre Père céleste, ça change complètement la perspective. Lorsque nous sommes capables d'accomplir certaines choses, de réaliser certaines choses, de faire certaines choses, est-ce que c'est vraiment nous? Est-ce que c'est par notre force? Non. C'est Dieu qui nous donne les talents. C'est Dieu qui nous donne l'habileté. C'est Dieu qui nous donne les circonstances. Et c'est lui qui nous donne son esprit pour nous diriger, pour nous guider, pour nous encourager. Et c'est sa parole vers laquelle nous nous tournons comme source de sagesse et de discernement. Il nous faut comprendre cela. Résultat, nous allons réaliser que tout ce que nous sommes, que tout ce que nous devenons, que tout ce que nous faisons, que tout ce que nous savons, nous vient de Dieu. Et nous allons d'autant plus désirer le servir, l'honorer, l'adorer, lui plaire en toute chose, faire sa volonté. Frères et sœurs, lorsque nous comprenons la signification de ce que ça veut dire être enflé d'orgueil, il nous faut de tout notre cœur nous efforcer avec l'aide de Dieu d'éliminer ça de nos vies, d'éliminer l'orgueil de nos vies. Nous regardons autour dans la société, c'est partout l'orgueil, mais nous voyons dans la Bible les avertissements nombreux qui nous sont donnés. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être aveugle au rôle désastreux que l'orgueil joue dans la vie de ceux qui le laissent les infiltrer. Il faut que notre vie soit caractérisée par l'amour de Dieu et non pas par l'amour de nous-mêmes.